Bonjour et bienvenue dans cette série de balados intitulée « Leadership en confiance », une collaboration entre parents partenaires en éducation et le Conseil scolaire Viamonde. Je suis Mélanie Gatt, coach certifiée et consultante pour la firme Discitus, et je vous accompagne tout au long de 5 épisodes durant lesquels on revient et on explore ensemble les thèmes abordés lors des sessions de coaching avec les parents leaders du Conseil scolaire Viamonde. Cette série de balados s'inscrit dans un projet d'engagement des parents qui est soutenu par le comité de participation des parents du Conseil scolaire Viamonde. À travers cette série, on va explorer ensemble les dimensions essentielles d'un leadership qui se veut bienveillant, engagé et ancré dans la réalité des parents d'aujourd'hui. Alors que vous soyez déjà impliqué ou que vous envisagiez de le devenir, on espère que ces échanges vont vous inspirer à jouer un rôle actif et confiant dans la vie scolaire de vos enfants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on explore le thème du leadership inclusif, un enjeu crucial dans nos communautés scolaires de plus en plus diversifiées. Comment on adopte une posture plus ouverte, consciente des réalités multiples de nos communautés? Comment on s'assure que toutes les voix ont leur place autour de leur table? C'est ce qu'on explore aujourd'hui avec Bertrand, qui est de retour avec nous et qui va nous livrer son expérience en lien avec justement le leadership inclusif. Alors bonjour Bertrand.
Bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien ce matin.
Ça va très bien, merci. Je t'invite peut-être dans un premier temps, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore écouté les premiers épisodes, à te présenter, puis peut-être de le faire un petit peu sous la bannière du leadership inclusif.
Avec plaisir Mélanie. Donc, je suis Bertrand Defoe, papa de 3 enfants, 2 ados et un garçon, donc 12e année, il gradue là dans quelques jours. 8e année, 9e année en septembre, et puis 4e année en septembre, le garçon. J'ai été, j'ai enseigné 13 ans en Ontario et dans la grande région de Toronto. Comme nous savons tous, c'est une région ô combien diverse, ô combien multiculturelle, multilinguistique, etc., etc. Donc, j'ai énormément grandi au contact de mes jeunes, des parents, des collègues et des autres citoyens, citoyennes en général de Grand Toronto. En tant que consultant en éducation, donc depuis 9 ans maintenant, que j'ai créé Education Consulting Inc., nous offrons, Mélanie, nous offrons des ateliers, des webinaires, des formations, auprès des conseils scolaires, auprès des organismes de parents, dont PPE, Parents Partenaires en Éducation, dans la province et à l'échelle du pays. Et donc, à ce titre, je vis, je travaille dans la diversité, dans l'inclusion. Je vais terminer en mentionnant que j'ai été pendant 2 ans président du conseil d'école de mes enfants. Et ça fait 14 ans maintenant que je suis parent animateur donc pour PPE. Voilà. Donc, l'inclusion, vraiment, ce n'est pas juste un concept. Chez moi, là, c'est une réalité.
Justement, au cours des, tu sais, tu parles des 15, 20 dernières années, là, comment tu as vu l'inclusion évoluer?
Très, 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 très positivement en général, Mélanie. On dit qu'il y a une quinzaine d'années à peu près, oui, on parlait déjà de diversité, d'équité, d'inclusion, mais il y avait, comment je vais dire ça, par rapport à aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses encore, même aujourd'hui, il y a toujours des éléments à améliorer, évidemment, je crois qu'on ne cessera jamais de s'améliorer, puisque, par définition, la société est imparfaite, mais on peut voir quand même qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'avancées, beaucoup de changements, énormément. À plusieurs niveaux. Exemple, les personnes à mobilité réduite, par exemple, il y a plus, on fait plus attention à leurs besoins, besoins émotionnels, affectifs, mais aussi d'un point de vue visuel, est-ce qu'on peut voir quand on se promène? On voit, par exemple, que les trottoirs, quand on rénove les trottoirs, quand on bitume là, les chaussées, on voit qu'on on tient compte des besoins de toute la population, à utiliser les trottoirs, à traverser les rues, etc., etc. Il y a une quinzaine d'années, il y avait des trottoirs qui n'étaient pas adaptés, si suite ou bien ou des immeubles, des bâtiments, voilà. Des bâtiments, même publics encore, hein, à l'époque, qui n'étaient pas adaptés. Et on voit de moins en moins cela. Donc ça, c'est une belle avancée. Dans le milieu de l'éducation, on voit que les parents immigrants sont de plus en plus écoutés, pas seulement dans le Grand Toronto, à travers la province, parce que je me déplace. Hein. L'année dernière, j'ai offert une conférence pour un conseil scolaire d'une région autre que le centre-sud-ouest. Hein. J'ai été même dans une école bien loin de Toronto, où il y a une quinzaine d'années, la diversité ethnique, culturelle était beaucoup plus un slogan qu'une réalité. Mais aujourd'hui, cette région-là, cette grande région de notre province, est de plus en plus diverse. Donc, on voit vraiment, moi en tout cas, je vois des améliorations. Évidemment, il y a des choses encore à corriger. Je voudrais dire un mot là-dessus, Mélanie. Il y a quelques semaines, par exemple, la commission ontarienne des droits de la personne a produit un rapport, a fait des recommandations sur le racisme systémique anti-noir en éducation en Ontario et a donc émis une série de recommandations à la fois pour les facultés d'éducation, les conseils scolaires, les syndicats, l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et ainsi de suite pour dire oui, il y a du chemin qui a été fait, mais il reste encore des choses à faire. Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour cette première question.
Mais oui, il reste beaucoup de choses à faire, absolument. Puis en même temps, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même du chemin qui a été fait.
Tout à fait.
Tu sais, le leadership dans le webinaire, on l'a articulé autour de la notion d'ouverture, le leadership inclusif. On s'est dit, au fond, l'inclusion, ça revient à une qualité humaine qu'on pourrait appeler l'ouverture. Puis on l'a divisé en trois parties, l'ouverture à soi, l'ouverture aux autres et l'ouverture à son environnement. Comment ça te parle, tu sais, si je commence par l'ouverture peut-être aux autres, là, comment ça te parle ça, l'ouverture aux autres, Bertrand?
Très très bon point, Mélanie. L'ouverture aux autres, pour moi, ça se manifeste à travers l'écoute. Pour moi, c'est un point extrêmement important, l'écoute. Et comme parent, comme consultant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai été 2 ans président d'un conseil d'école. C'est l'écouter les autres, c'est de prendre le temps d'écouter. En général, lors des rencontres, je parle très peu, sauf si je dois prendre la parole. Mais je laisse la possibilité, l'opportunité aux autres de parler, en fait. J'écoute énormément. Et pourquoi? Parce que quand on laisse les autres parler, on leur permet de s'exprimer, mais d'exprimer ce qu'elles, bon, ces personnes, ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent, ce qu'elles ne veulent pas. On leur permet de s'affirmer, de prendre leur place, de se positionner aussi comme leader. Je crois fermement qu'on est tous leaders. On a tous des germes de leadership en nous. Il faut simplement que le contexte s'y prête. Quand on écoute, quand on laisse la possibilité aux autres de parler sans leur couper la parole, on s'ouvre à leurs émotions, on s'ouvre à leurs sentiments, on s'ouvre à leurs valeurs aussi. C'est aussi ça, la diversité. On laisse la possibilité à ces personnes de nous enrichir autant qu'on aimerait enrichir leurs expériences. Pour moi, c'est ça la beauté de la diversité. Ça passe énormément par l'écoute. La diversité aussi, c'est de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses. Parfois même de reconnaître qu'on n'a pas de réponse du tout à certaines questions, à certaines situations. Et donc, de dire, de demander à son équipe ou de demander au conseil d'école, bah, écoutez, OK, il y a telle situation ou bien il y a, je pense que c'est ici. Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vers quoi on pourrait aller? Et là, autour de la table, chacun partage partage sa réalité, partage sa vision des choses. Et au fil des échanges, on arrive à une sorte de consensus. C'est dit bien.
Mm-hmm.
Les priorités de l'école ou du conseil d'école, c'est ceci. Les besoins de l'école, c'est ça. OK. Cette année, on va focaliser notre attention, notre énergie, nos ressources sur ce point. Et l'année prochaine, on pourra avancer vers telle autre priorité. Donc, voilà, Mélanie, quelques exemples, quelques situations où j'ai pu faire preuve d'ouverture.
D'ouverture, oui. Puis, tu sais, c'est intéressant parce qu'on en parlait dans un précédent podcast, là. On parlait, tu sais, de l'ouverture sur soi, c'est vraiment à la fois d'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute, comme tu l'as très bien nommé, et d'être dans les bonnes intentions, hein, de prêter à la fois des bonnes intentions aux autres, mais aussi à nous d'en avoir. Hein. Donc, quand on parle de leadership inclusif sous l'aspect de l'ouverture aux autres, on va toujours utiliser ces trois renforts-là. Est-ce que je suis dans l'empathie? Est-ce que je prête des bonnes intentions à l'autre? Et est-ce que je suis dans l'écoute? Comme pour se dire, voici un petit peu ma checklist de l'ouverture aux autres. Puis, tu sais, si je continue sur l'ouverture sur soi, on a aussi comme une checklist de trois. Hein. C'est assez facile, on avait rendu ça très facile avec, dans le webinaire. Pour savoir finalement si on est assez ouvert sur soi, la première chose, c'est d'être humble, de pratiquer l'humilité. Tu sais, comme si je reconnais que ma contribution et la contribution des autres est égale et surtout que je vais rester concentrée sur les objectifs collectifs. J'ai pas besoin de me donner plus de place, ni d'ailleurs moins de place que nécessaire. Fait que l'humilité, l'introspection, hein, se poser la question à « OK, est-ce que je suis biaisée par quelque chose ?» Et puis, la troisième chose, c'était sur le fait d'être un éternel apprenant. Donc, un éternel apprenant qui est un petit peu la remise en question, qui est la capacité d'être, tu sais, d'avoir une capacité mentale d'ouverture, de curiosité, de proactivité. Là. Quand tu entends ces mots-là, éternel apprenant, introspection puis humilité, comment ça te parle à toi, Bertrand?
Elles sont des qualités essentielles, Mélanie. Elles sont des qualités essentielles à tout leader, à toute personne, si on veut avancer. Hein, c'est de développer ce que... Et là, je vais aller chercher une auteure que j'apprécie énormément, Carol Dweck, qui a donc développé sa recherche autour des concepts de état d'esprit, voilà, état d'esprit fixe ou état d'esprit de croissance, de développement. Quand on a un état d'esprit de croissance, on reconnaît ses limites. D'ailleurs, un grand philosophe disait que je sais une seule chose, je connais une seule chose, c'est que je ne connais rien. C'est la base même de l'apprentissage, du développement.
Pardon.
Voilà, aussi simple que ça. Donc, on reconnaît ses limites, on reconnaît qu'on ne sait rien ou qu'on sait très, 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 très peu. Et on s'ouvre dans les autres, on s'ouvre aux possibilités d'apprendre, que ce soit sur le plan intellectuel, culturel, social, etc. etc. On reconnaît aussi que notre façon de faire, notre façon d'agir n'est peut-être pas la mieux indiquée tout le temps ou même n'est pas indiquée du tout. C'est parfaitement possible. C'est un peu comme une métaphore toute simple, pratico-pratique, pour que, voilà. Je vais revenir terre à terre un peu, Mélanie.
Mm-hmm.
Dans le domaine de la cuisine, hein, on sait qu'il y a, pour ceux qui aiment bien apprécier les bons plats, comme pour moi et peut-être comme toi aussi, Mélanie,
mm-hmm.
on sait que, OK, souvent, on peut avoir une façon de préparer un aliment. Et puis, un beau jour, il y a un potluck à l'école, par exemple, où on est invité chez une famille amie. Et oups, on voit que ce sont les mêmes ingrédients, mais cuisinés différemment. Mmh. Ou bien juste une touche, un petit quelque chose de différent. Et puis, au départ, on est un peu comme, oups. Il y a une forme de réaction un peu de, OK, je suis surpris, mais je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ceci de cette façon-là. Et puis, on me pose des questions, mais ça vient d'où? Comment vous faites ça? Etc., etc. Et si on est comme moi, on va goûter. On a hâte de goûter, de voir, bon, est-ce que, à peu près les mêmes ingrédients, mais une ou deux différences. Et puis, on goûte et puis on se rend compte que, oh là là, que c'est délicieux. Mais on n'y avait jamais pensé. La pire des choses, c'est de se... Comme on peut voir parfois, certaines personnes le font, c'est de se refermer aux autres, à la différence, à la nouveauté. Se dire, oh non, non, non. Non, parfois j'entends des gens dire, mais dans mon pays, ou chez moi, ou chez nous, ou par chez nous, que sais-je encore, on fait les choses comme ci, on fait les choses comme ça.
Mm-hmm.
OK, c'est pas mauvais. Mais as-tu essayé cette autre façon de faire? Veux-tu au moins te laisser la chance là d'explorer, essaye au moins, peut-être que ça ne te plaira pas, mais peut-être que ça te plaira aussi. Peut-être que ça va être la découverte de ta semaine ou de ton mois là. Essaye au moins et puis garde-toi ouverte à essayer à explorer cette autre possibilité. Donc voilà, je crois pour moi une métaphore toute simple hein, qui illustre l'importance de s'ouvrir, l'importance de garder cette curiosité-là, l'importance de rester humble face aux situations, face aux autres. Ouais.
Mm-hmm. Oui, puis tu sais, pour reprendre ta métaphore culinaire, je dirais comme mes parents me disaient quand j'étais petite, goûte au moins.
Bah, effectivement.
Goûte. Puis, parce que oui, ça pourrait avoir une allure, tu sais, une apparence qui est peut-être moins bonne, qui te semble pas alléchante, mais des fois, on peut être vraiment surprise. Donc, oui, absolument, goûte-y. Puis, tu vois, pour faire la boucle sur les 9 habiletés de l'ouverture, on en a vu déjà 6. Les 3 dernières, c'est l'ouverture sur son environnement. Puis, ce qu'on disait, c'est pour être ouvert sur son environnement, c'est d'être bienveillant, d'être adaptable et optimiste. Tu sais, optimiste dans le sens où on veut une attitude qui soit positive. On a parlé, toi et moi, de résilience déjà dans un autre balado. Adaptable, c'est vraiment d'agir avec la flexibilité. Oui, de la résilience, évidemment, aussi, mais de la flexibilité. On va s'ajuster aux défis. Et puis, tout le côté bienveillant, ça fait référence à la... Je pourrais quasiment dire à la douceur, à la générosité, à la compassion. Toi, de quelle façon tu le vis au quotidien, l'ouverture sur ton environnement?
Merci pour la question, Mélanie. L'ouverture sur mon environnement, là, bon, il y a l'environnement physique et puis il y a l'environnement social, entre autres. Okay. Pour l'environnement physique, j'explore, j'aime marcher. Comme j'ai dit dans un autre balado, je marche, surtout quand il fait beau, là. Automne, printemps, été, je marche énormément. Voilà. Je sors, j'aime. Je suis un passionné des voyages. Je pourrais vous parler de voyages pendant des heures à travers le pays, quoique je trouve que je n'explore pas assez le pays, mais vers d'autres contrées, vers d'autres pays, vers d'autres continents aussi. Comment je veux dire? Il y a en moi cette soif, j'ai envie de dire insatiable, de rencontrer l'autre. Mm. L'autre dans sa diversité, l'autre dans sa richesse, dans ce qu'il peut avoir de plus surprenant et peut-être même parfois de déstabilisant. Parce que la rencontre de l'autre aussi, hein, ce thème de l'ouverture de la rencontre, c'est une vieille thématique hein, en philosophie, en littérature. Autant l'autre nous enrichit, autant l'autre peut nous déstabiliser. Je crois, Mélanie, si tu permets la réflexion, que s'il y en a qui s'ouvrent trop peu ou voire même pas du tout, c'est parce que ces personnes ont peur de l'inconnu. Parce que la rencontre de l'autre, accepter de rencontrer l'autre, c'est accepter aussi d'aller vers l'inconnu, d'aller vers ce qui peut nous déstabiliser, ce qui peut venir nous déstabiliser dans nos certitudes, dans nos habitudes. Et souvent, les humains n'aiment pas trop ça. Alors, moi, j'explore l'environnement physique. J'explore aussi énormément l'environnement social. De quelle façon? Je lis beaucoup, j'aime rencontrer du monde, j'aime discuter. S'il n'y avait pas de limite dans le temps, on pourrait continuer ce podcast pendant des heures. Et puis, j'aime laisser les autres me partager leur quotidien, me parler de leurs expériences, de leur vécu. J'aime ça. Que les autres me permettent d'entrer dans leur vécu, dans leur quotidien, en littérature, on parle ou en psychologie de dans leur psyché là. Mm-hmm. Un peu comme un auteur. Hein, j'ai un background, j'ai un passé de prof hein, qui ne m'équipe pas, qui ne m'équipera certainement jamais. Mm-hmm. Et souvent en littérature, quand on analyse, je vais terminer là pour ne pas être trop long, Mélanie. Quand on analyse une pièce de théâtre, un roman, on va parler de l'espace, on va parler du temps, on va parler de personnages, mais j'ai appris aussi, mes profs, mes mentors m'ont appris à analyser aussi une œuvre en analysant l'auteur aussi, en allant chercher à travers le récit la psychologie de l'auteur. Oui, autant on analyse une œuvre selon la société qui l'a vue naître, hein, on appelle souvent la sociocritique, mais autant on va analyser une œuvre selon l'auteur qui a donné naissance à cette œuvre-là, en essayant de retrouver l'auteur dans sa propre œuvre. Et je suis comme ça aussi avec les gens. J'aime que les gens me permettent d'entrer dans leur psychologie, dans leur psyché. C'est comme si je lisais un roman, le roman de leur vie ou bien le roman du chapitre de leur vie qu'elles me permettent de lire.
C'est une super belle analogie. J'aime beaucoup ça, cette analogie de livre, de lecture, de partage, d'ouverture. Finalement, on en revient à l'inclusion comme une valeur humaine en lien avec l'ouverture. Alors, un leadership inclusif, ça commence vraiment par, on l'a vu, tu sais, une écoute active, une posture d'humilité, un engagement à remettre en question, je dirais quasiment, nos angles morts. Alors, je remercie tout le monde de s'être joint aujourd'hui à nous pour cette réflexion et ces belles analogies pour faire de nos milieux scolaires des espaces qui sont réellement accueillants pour tous. Évidemment, un grand merci au Conseil scolaire Via Monde, à son comité de participation des parents, pour leur initiative et leur soutien financier dans la réalisation de cette série de balados. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le 5e et dernier épisode où on aborde le développement personnel et l'harmonie vie-travail-famille. Merci beaucoup, Bertrand.
C'est un plaisir, Mélanie. Passe une bonne journée.